Vous écoutez, on lit pour vous.
Le sport a un effet positif sur la réussite scolaire, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 9 août 2024 dans la presse. L'activité physique chez les jeunes n'est pas seulement bénéfique pour leur santé. La pratique d'un sport au primaire permet également de mieux réussir à l'école, et ce, jusqu'à la fin du secondaire, révèle une étude de l'Université de Montréal et du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, publiée début août 2024. Prédire les chances de réussite scolaire grâce au sport. Nous avons obtenu des résultats convaincants qui démontrent que la pratique d'un sport de la maternelle à la quatrième année a un effet positif sur tous les indicateurs de réussite scolaire jusqu'à la fin du secondaire, dit Linda Pagani, professeure de psychoéducation à l'Université de Montréal et co-auteure de l'étude. L'équipe a suivi 746 filles et 721 garçons nés en 1997 ou 1998 en utilisant les données de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec de l'Institut de la statistique du Québec. Ils ont ainsi pu établir des liens entre la pratique d'un sport entre 6 et 10 ans et la réussite scolaire au secondaire jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ce, tant chez les filles que chez les garçons. Des adolescents plus engagés et motivés. Les chercheurs ne se sont pas contentés d'analyser l'effet du sport sur les résultats scolaires des jeunes. On a pris en compte plusieurs indicateurs de réussite, dit Madame Pagani. Non seulement les enfants qui pratiquaient régulièrement un sport obtenaient de meilleures notes, mais ils étaient aussi moins susceptibles d'abandonner l'école en dernière année du secondaire par rapport à ceux qui faisaient peu ou pas de sport. De plus, ils attachaient davantage d'importance à leurs résultats scolaires, ils étaient plus engagés envers leur école et nourrissaient des aspirations plus élevées quant à la poursuite de leurs études au cégep et à l'université. D'autres études avait d'ailleurs déjà démontré que la forme cardio-respiratoire et la force musculaire étaient associées à de meilleurs résultats scolaires chez les adolescents. Les filles qui pratiquaient régulièrement un sport à l'école primaire avaient un risque de redoubler une classe à l'adolescence réduit de 21% par rapport à celles qui ne pratiquaient pas de sport de manière régulière. Pour les garçons, ce risque était réduit de 16%. Un environnement stimulant. Le sport, surtout avec un entraîneur, crée un environnement stimulant et des opportunités sociales que l'enfant conserve dans les années qui suivent. Ça vient également stimuler le cerveau, les fonctions exécutives, qui sont très importantes pour les performances académiques, et le désir de s'engager à l'école, explique Kianush Arandian, co-auteur de l'étude et étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Montréal. Pour être considérés comme faisant partie du groupe sportif, les jeunes devaient pratiquer régulièrement une activité physique avec un entraîneur, comme la danse, les arts martiaux ou le soccer, et poursuivre cette activité de façon constante pendant plusieurs années. Des avantages considérables. On voit que les parents impliquent de plus en plus les filles dans les sports comme le soccer, la ringuette et le basketball, observe la professeure Linda Pagani. C'est intéressant, parce qu'on est en train de donner autant d'occasions aux jeunes filles qu'aux garçons d'expérimenter les sports et leurs défis. Les chercheurs ont également observé que les filles qui pratiquaient régulièrement des sports durant leur enfance, bénéficiaient d'avantages considérables dans leur moyenne en cours de langue, comme le français et l'anglais. Selon eux, non seulement l'engagement dans le sport pendant l'enfance contribue à la réussite scolaire à l'adolescence, mais il pourrait augmenter les chances de réussite économique et personnel à l'âge adulte. C'était « Le sport a un effet positif sur la réussite scolaire », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 9 août 2024 dans la presse.
De plus en plus de Québécois s'aventurent dans la jungle des prêts hypothécaires alternatifs. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir. Les propriétaires québécois sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des prêteurs provenant de l'extérieur du secteur bancaire, malgré les risques, pour avoir accès à un prêt hypothécaire. Une situation qui témoigne du contexte économique difficile et du marché immobilier tendu dans la province, où l'accès à la propriété devient de plus en plus un privilège. Qu'il s'agisse de maisons de courtage, de compagnies d'assurance, de prêteurs d'argent ou encore de sociétés financières, les solutions de rechange aux banques sont nombreuses pour les propriétaires endettés ou ayant un revenu modeste qui tentent d'obtenir un prêt hypothécaire auprès d'organisations qui n'ont pas à appliquer les mêmes règles strictes que celles auxquelles sont assujetties les banques canadiennes. À l'échelle du pays, la part des prêts hypothécaires résidentiels accordés par ces acteurs s'est élevée en moyenne à 23 % depuis 2014, selon des données de Statistique Canada fournies au Devoir. Signe que le recours à ces substituts aux banques témoigne des problèmes en matière d'accès à la propriété, c'est en majeure partie en Ontario et en Colombie-Britannique, de loin les deux provinces où les prix sur le marché de l'immobilier sont les plus élevés au pays, que l'on rapporte la plus grande part de propriétaires ayant recours à ces prêts non bancaires. Le Québec commence toutefois à se tailler une place dans ce palmarès, en marge de la hausse rapide de la valeur des propriétés qui a été notée sur son territoire depuis la pandémie. La province était ainsi associée à 3,9 % des prêts hypothécaires non traditionnels, comptabilisé par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, en 2023, contre 2 % en 2019, avant la crise sanitaire. Ce pourcentage avait d'ailleurs atteint 5 % en 2022, au moment où la valeur des propriétés atteignait un sommet dans la province. Un marché moins accessible. Un rapport publié par JLR Solutions foncières à la fin mai faisait pour sa part état d'une augmentation de 2,7% l'an dernier des parts de marché des hypothèques résidentielles au Québec, accaparées par de petits prêteurs, qui font ainsi concurrence aux banques à charte fédérale et à Desjardins. La situation s'explique par le fait que de nombreux emprunteurs ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir un prêt hypothécaire auprès d'un prêteur traditionnel, note le rapport. Il faut comprendre que l'accès au financement est devenu compliqué en raison de l'augmentation des taux d'intérêt. Les gens ne se qualifient plus pour des prêts hypothécaires auprès des banques, constate l'expert conseil en immobilier et entrepreneur Jean-François Tremblay. En raison de la flambée de la valeur des propriétés et de la hausse des taux d'intérêt ces dernières années, la mise de fonds dont doivent disposer les Québécois pour acquérir une propriété est passée dans bien des cas du simple au double, explique-t-il. Une somme que de nombreux premiers acheteurs ne peuvent pas se payer, ce qui les incite à se tourner vers des prêteurs alternatifs moins exigeants, poursuit M. Tremblay. Ils ne regardent pas vraiment le taux d'endettement des aspirants propriétaires, contrairement aux banques, constate d'ailleurs Steve Saint-Onge, qui a eu recours à ce type de prêt peu réglementé pour acquérir un triplex à Shawinigan dans les dernières années. Des risques importants. On voit qu'il y a une demande beaucoup plus importante dans ce segment-là parce que les gens ne se qualifient pas pour des prêts hypothécaires traditionnels, confirme Tania Bourassa, au choix, économiste au sein de la SCHL. Il s'agit donc pour plusieurs d'une solution de dernier recours, explique-t-elle. C'est un profil de clientèle qui est plus risqué et ce sont des prêts beaucoup plus courts, peut-être d'un an ou de deux ans, qui leur sont proposés par ces prêteurs alternatifs. Le taux d'emprunt proposé par ces derniers, qui a grimpé dans les dernières années, peut pour sa part atteindre 15 % dans certains cas, un taux beaucoup plus élevé que celui proposé par le secteur bancaire. Ces prêts ne sont pourtant pas sans risque pour les emprunteurs, au contraire. La SCHL fait d'ailleurs état d'une forte croissance l'an dernier du taux de prêts en souffrance depuis au moins 60 jours, tandis que le nombre de saisies de propriétés par ces organisations est lui aussi reparti à la hausse à l'échelle du pays en 2023. Si tu n'as pas de stratégie de sortie bien établie des prêts non traditionnels, tu peux te planter solide, met ainsi en garde Steve Saint-Onge. C'est un peu la jungle. La croissance de la dette hypothécaire des Canadiens associée à des intermédiaires non bancaires dans les dernières années a d'ailleurs été en partie alimentée par un bond dans la popularité de prêteurs privés, généralement moins encadrés et organisés que des compagnies d'assurance et des sociétés financières, a constaté Le Devoir. Cette catégorie plus à la marge, qui comprend notamment des sociétés non financières, des prêteurs privés individuels et des non-résidents, prêtant des fonds à des Canadiens désirant acquérir une propriété, a été baptisé « autres prêteurs » dans les données de Statistique Canada. La dette hypothécaire des Canadiens qui y est rattachée a cru de 69 % entre janvier 2018 et avril 2024, tandis que cette croissance s'est élevée à 19,3 % en ce qui concerne les principales banques canadiennes, montre l'analyse du Devoir. Il y a beaucoup de croissance pour certains sous-secteurs non bancaires qui sont moins régulés et fournissent des prêts hypothécaires, confirme Matthew Offart, analyste pour Statistique Canada. Combiné avec les sociétés d'investissement hypothécaire qui offrent elles aussi des prêts avec un taux d'intérêt élevé, les autres prêteurs ont ainsi accaparé depuis le début de l'année 2 % de la dette hypothécaire des Canadiens sur le marché résidentiel. Un pourcentage faible, mais qui préoccupe tout de même la SCHL, puisque ces organisations non bancaires ne sont pas assujetties à la réglementation prudentielle qui encadre les banques et vise à protéger la santé financière des institutions comme des emprunteurs. Ce marché-là, c'est un peu la jungle, constate Jean-François Tremblay, qui déplore un manque flagrant de réglementation et de structure touchant les prêteurs alternatifs. L'économiste Tania Bourassa-Auchoua souligne pour sa part que ces prêteurs alternatifs peuvent parfois représenter une bouée de sauvetage pour des ménages qui traversent un divorce ou une autre période difficile, par exemple, et qui doivent rapidement acquérir une propriété. Cette option se doit toutefois d'être temporaire, rappelle-t-elle, car la dette peut rapidement devenir insupportable. Ça ne peut pas être une solution viable à long terme. Une tempête parfaite pour les fraudes hypothécaires. La hausse du coût de la vie, des taux hypothécaires et de la valeur des propriétés a créé une tempête parfaite contribuant à des fraudes commises par des Canadiens tentant désespérément d'accéder à la propriété, constate Cheryl Prince, responsable du service de conseil en gestion de la fraude et de l'identité chez Equifax Canada. Ce sont essentiellement des fraudes de première partie, donc les gens changent la description de leur situation financière afin de pouvoir se qualifier à des prêts hypothécaires, poursuit-elle. Ils voient qu'ils ne se qualifient pas auprès des grandes banques, donc ils se disent qu'ils pourraient ne pas obtenir un prêteur s'ils font une déclaration qui dit qu'ils ne font que 50 000 $ par année. Donc, ils vont plutôt faire un faux document dans lequel ils indiquent qu'ils font 100 000 $ par année, poursuit-elle. En février 2024, Equifax faisait état d'une hausse de 9,9 % au dernier trimestre de 2023 du nombre de fraudes hypothécaires au pays, par rapport à la même période l'an dernier. C'est le plus haut qu'on a vu depuis 2019, soit avant la pandémie, relève Mme Prince. Or, le nombre de ces fraudes pourrait bien continuer de croître si le taux de chômage continue d'augmenter. Si l'économie se resserre, ce sera un élément clé dans l'augmentation des fraudes hypothécaires, prévient cette experte. C'était De plus en plus de Québécois s'aventurent dans la jungle des prêts hypothécaires alternatifs, un texte de Zacharie Goudreau, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir.
Après Equifax, comment protéger ses données? Un dossier de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 11 août 2024 dans la presse. En 2019, plus de 2 millions de membres de Desjardins touchés par une importante fuite de données ont activé un abonnement à Equifax, fourni gratuitement par l'institution en guise de compensation. Alors que le programme arrive à échéance, quel mécanisme mettre en place pour se protéger? Qu'on soit client chez Desjardins ou ailleurs, voici ce qu'il faut savoir. Des données volées pour la vie. Ramenons-nous à l'été 2019, alors que le scandale du vol de données chez Desjardins est révélé au grand jour. Rapidement, l'institution financière annonce une mesure pour rassurer ses membres. Un abonnement à un service de l'agence d'évaluation de crédit Equifax, valide pour 5 ans, qui nous permet entre autres de recevoir un courriel chaque fois qu'une activité est enregistrée dans notre dossier. Le compteur démarrait à la date d'activation, donc le moment exact de fin de la protection varie selon chacun. Elle se terminera en 2024 pour 1,7 million de personnes, soit 76% de celles qui y avaient souscrit, a confirmé Desjardins à la presse. Or, les fraudeurs qui possèdent les données dérobées les ont pour toujours et peuvent encore tenter de les revendre. Si vous avez des enfants dont le compte avait été visé en 2019, c'est aussi vrai dans leur cas et ils devront être vigilants toute leur vie. Que faire alors? La question se pose parce que si on souhaite conserver le service qui se nomme Equifax Complet Supérieur, il faut maintenant être prêt à débourser pas moins de $24,95 par mois. $25 par mois. C'est quand même un tarif élevé pour surveiller des données qui nous appartiennent, estime Maxime Doré, co-directeur de l'Union des consommateurs. Il poursuit. Ça vaut la peine de comparer ce que ça nous offre par rapport aux options gratuites. Les gens devront évaluer si ça vaut $25, mais à mon sens, je ne pense pas. C'est que, depuis la fuite, des protections légales ont été instaurées pour mieux protéger les consommateurs, ce qui permet l'accès à plusieurs services gratuits. De plus, si vous faites partie des membres Desjardins qui ont été touchés par le vol, le terme de l'abonnement Equifax ne signifie pas la fin totale des services auxquels vous avez droit. La protection Desjardins reste pour sa part en vigueur sans limitation de durée, ce qui implique que les actifs détenus et les transactions effectuées chez Desjardins sont protégés en cas d'opération non autorisée. Desjardins offre aussi une prise en charge personnalisée si vous êtes victime d'un vol d'identité et un remboursement allant jusqu'à $50 000 des frais et dépenses engagés dans le cadre d'une démarche de restauration d'identité. Le rôle des agences. Pour bien comprendre la nature des services que peut offrir Equifax, regardons brièvement son fonctionnement. Il s'agit d'une agence d'évaluation de crédit qui recense dans un dossier central plusieurs données. Quand on observe son dossier, on peut y voir les cartes de crédit que l'on détient auprès de diverses institutions, tout comme ses prêts hypothécaires ou ses prêts auto, par exemple. Il comprend aussi des détails sur l'utilisation qu'on fait de ce crédit. À partir de ces données, une cote de crédit est calculée et utilisé par des prêteurs pour évaluer le niveau de risque qu'ils engagent en nous prêtant de l'argent. Au Canada, il existe principalement deux agences du genre, soit Equifax et TransUnion. On ne choisit pas d'avoir ou non un dossier auprès de ces entreprises, il se crée automatiquement. Ces agences n'ont pas de contrôle sur les prêts qui nous sont accordés. Si une ligne de crédit est ouverte à notre nom, Elle apparaîtra dans notre dossier et nous en serons avisés en le consultant ou en recevant une alerte. Sauf que si c'est un fraudeur qui l'a ouverte, une bonne partie du mal sera déjà faite. L'expert en cybersécurité, Éric Parent, considère d'ailleurs qu'on a tort de parler d'une protection quand il est question de l'abonnement au service d'Equifax. Si je te protège contre manger une claque sur la gueule, mais que je te le dis une fois que tu as eu la claque, ce n'est pas une protection. C'est un système d'alerte, illustre celui qui est PDG d'Eva Technologies. Trois mécanismes gratuits. La bonne nouvelle, c'est que la loi sur les agents d'évaluation du crédit, adoptée après le vol de données chez Desjardins, oblige Equifax et TransUnion à offrir gratuitement trois mécanismes qui permettent de limiter les dommages que peuvent faire les fraudeurs. Il faut faire ces démarches auprès des deux agences si on veut maximiser ses chances d'éviter les tentatives de fraude. L'alerte de sécurité. Le premier, c'est d'activer une alerte de sécurité qui fait en sorte que lors de l'ouverture d'une ligne de crédit à notre nom, nous serons contactés par téléphone pour la vérification de notre identité. Donc, si ce n'est pas nous qui entamons la procédure, nous serons avisés de la tentative d'accès. C'est un peu comme un double authentifiant. On vient s'assurer auprès de vous que vous avez bien fait une demande de crédit, explique Maxime Doré, qui croit qu'il s'agit du geste le plus simple et le plus sécuritaire à faire. Cela implique une démarche de votre part. Pour activer cette alerte, vous devez contacter les deux agences de crédit, indique l'Autorité des marchés financiers, AMF. La mise en place de cette alerte est gratuite. Elle n'est toutefois pas incluse dans l'abonnement à Equifax fourni par Desjardins. Vous écoutez, après Equifax, comment protéger ses données, un dossier de Camille Dauphinet-Pelletier paru le 11 août 2024 dans la presse. Le verrouillage de compte. Vous pouvez aussi verrouiller gratuitement votre compte, ce qui empêchera carrément le lancement de l'ouverture d'une ligne de crédit. Cette démarche se fait simplement et en ligne. Il faut cependant penser à le déverrouiller manuellement si vous souhaitez contracter un prêt, augmenter votre limite de carte de crédit ou même changer de fournisseur de téléphone cellulaire. Ça dépend à quelle fréquence on demande du crédit, mais normalement, ça n'arrive pas si souvent. Donc, vu le niveau de protection que ça peut nous amener, ça peut être intéressant de le faire, évoque Maxime Doré. Ça prend quelques minutes pour le déverrouiller, mais si on compare ça au temps que ça prend de réparer un vol d'identité et les fraudes qui peuvent s'en suivre. Ce n'est pas parce que votre abonnement au service d'Equifax est valide que votre dossier est verrouillé. C'est une démarche à faire en parallèle. La possibilité de consulter son dossier. Une fois que les alertes sont activées et que votre compte est verrouillé, les protections les plus importantes sont mises en place. Vous pouvez quand même prendre l'habitude de consulter votre dossier sur Equifax et TransUnion de temps en temps. L'Union des consommateurs recommande de le faire au moins une fois par année. Vous y verrez l'ensemble de vos lignes de crédit, mais aussi le nom des entreprises qui ont fait des vérifications dans votre dossier. Si vous êtes membre Desjardins, vous pouvez aussi consulter votre dossier de crédit directement sur Accéder et vous pouvez y activer des alertes courriel, mais uniquement concernant votre dossier de crédit TransUnion. Sachez que consulter votre dossier n'affecte pas votre cote de crédit et que l'accès à votre dossier doit être gratuit. On ne devrait pas vous demander de numéro de carte de crédit lors de votre connexion à Equifax ou TransUnion. Quelques entreprises tierces offrent de la surveillance gratuitement, mais en échange, il faut leur fournir nos données personnelles, ce qui augmente parallèlement notre exposition au risque de fuite. D'autres bonnes pratiques à adopter. À une certaine époque, on conseillait aux gens d'éviter de fournir leurs données personnelles en remplissant des formulaires en ligne. En 2024, difficile de tenir le même discours. Pratiquement tous les services sont accessibles en ligne, avec les potentielles brèches de sécurité que ça implique. On n'est jamais à l'abri des fuites de données qui touchent des masses de comptes, comme celles survenues chez Desjardins, mais on peut quand même adopter quelques bonnes habitudes pour créer des remparts supplémentaires autour de ces informations. Activer l'authentification à double facteur. Cette démarche est pertinente pour les plateformes les plus importantes que l'on utilise. On peut penser aux comptes bancaires, aux comptes gouvernementaux, ainsi qu'à notre adresse courriel personnelle, souvent utilisée pour récupérer des informations de connexion liées à d'autres plateformes. Ce processus fait en sorte qu'après avoir entré correctement un mot de passe, un code est acheminé par texto au numéro de téléphone lié au compte ou envoyé dans une application d'authentification comme Google Authenticator. On doit l'entrer pour réussir la connexion. Si un compte est vraiment important, il ne faut pas le protéger juste avec un mot de passe. L'application d'authentification, c'est encore mieux que le code par messagerie texte, mais dans tous les cas, c'est bon, souligne l'expert en cybersécurité Éric Parent. Utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est connu maintenant qu'utiliser un mot de passe de style 1, 2, 3, 4 n'est pas une bonne pratique. Mais même un mot de passe complexe à deviner peut être problématique si vous utilisez le même partout. Si une des banques de données qu'il contient est compromise, des fraudeurs pourront l'essayer sur d'autres plateformes. Si vous perdez le fil de vos mots de passe, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe comme HiPassword ou NordPass pour centraliser le tout dans une application sécurisée. Mais attention, la double authentification reste la procédure la plus importante à mettre en place. Attention à vos informations personnelles. On le sait, les fraudeurs ont généralement besoin de plusieurs de vos informations personnelles pour les amalgamer. Faites donc attention à celles que vous rendez disponibles sur des plateformes publiques. Votre date de naissance, votre adresse et même le nom de vos animaux de compagnie peuvent aider des gens mal intentionnés à récupérer vos comptes. C'était, après Equifax, comment protéger ses données? Un dossier de Camille Dauphiné-Pelletier paru le 11 août 2024 dans La Presse.